Et aujourd'hui, nous sommes à Lacoste, dans le Luberon.
Aurélie Spez, rendez-vous, place du marché.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Lacoste. Hier, vous étiez à Sablé-sur-Sarthe avec Antoine Lee et aujourd'hui, on prend la diagonale du sud, direction la Provence, dans ce village, Lacoste, un écrin de pierre bâti sur des carrières avec des petites ruelles en zigzag qui serpentent à flanc de colline. Comme aujourd'hui, il n'y a pas de marché, on s'est installé sur des gros cailloux tout en haut du château. C'est ici que le marquis de Sade, seigneur de Lacoste, venait se réfugier entre ses frasques et ses séjours en prison pour libertinage, blasphème et profanation. Et là où nous sommes, c'est pas un château, c'est une forteresse dans laquelle le marquis avait fait construire le théâtre de tous ses vices. « Viens là que je te fouette » et autres gaudrioles, avec vue sur les vignes, les lavandes et les Alpes. À Lacoste, il y a le spectre de Sade, mais il n'est pas tout seul. Il se balade, main dans la main, avec le fantôme du couturier Pierre Cardin. Il y a 20 ans, Cardin est tombé fou amoureux de ce village et il a voulu le posséder. Alors, il a racheté le château du marquis et une cinquantaine de maisons aux habitants ici. Certains disent « Merveilleux, Cardin est notre ami, on a gagné plein d'argent ». D'autres ont refusé les chèques en blanc pour garder leur maison. Lacoste, c'est le précieux, un Graal provençal qui attire toutes les convoitises, les rapaces et les artistes, les sculpteurs, les évaporés, les ermites, les hippies des 70s. Et nous, on va se balader partout, en haut, en bas et sur les côtés, accoster les habitants de Lacoste pour voir de plus près ce village à l'ombre du château. On est assis sur des rochers, sur des cailloux, au milieu de la garrigue, au pied des douves du château, le château du marquis de Sade. Bonjour Geneviève Récubert.
Bonjour.
Vous avez enseigné la culture en lycée agricole et quand vous êtes arrivée à Lacoste, vous étiez étudiante pour restaurer le château de Sade. Est-ce que vous en connaissez les moindres recoins ?
On parle de professeur, mais ça je l'ai oublié parce que je suis retraitée depuis un certain temps. Lorsque je suis arrivée à Lacoste, j'avais 18 ans. Je venais d'avoir mon bac. J'avais envie de travailler à la restauration et là c'est tombé sur le château du marquis de Sade. Mais je ne savais pas qui était le marquis de Sade. Alors on me disait c'est un grand écrivain. Ah bon ? Alors je suis allée à la librairie d'Apt. Et bien je n'ai trouvé qu'un seul ouvrage, Justine ou les infortunes de la vertu. Et j'ai dit, ah oui, je vois, j'ai un bac littéraire, je comprends pourquoi en lycée, on n'a pas étudié le marquis de Sade. Ah oui.
Qu'est-ce que ça vous a fait, Justine, quand vous avez lu les premiers mots ? Bon. Vous étiez choquée ?
Non, mais un grand étonnement quand même. Et ma foi, j'y ai pris goût. J'ai lu tout Sade, et dans des grandes éditions des bouquins du 19e siècle, couverts de poussière. Et ma foi, voilà comment j'ai fait mon initiation à Sade.
C'est une initiation à quoi ? Au plaisir, c'est une initiation à la littérature, une initiation à ses propres vices.
Sade, c'est surtout de la littérature. Il a passé 26 ans de sa vie en prison, et donc il a écrit. Il y a une correspondance énorme, magnifique, et puis il y a des romans. Vous avez 10 pages de philosophie, 10 pages d'orgie pas possible, qu'on a même du mal à imaginer, et puis la philosophie repart, et ainsi de suite.
Avec nous, assis dans l'herbe, vous êtes là, Cyril Montana, bonjour.
Bonjour.
Cyril, vous êtes enfant du pays, ça vous va comme définition, ça ?
Alors, en fait, je suis né à Paris, mais je suis venu ici accompagné par mon père quand j'étais petit, quand j'avais 5 ans, il était hippie, il avait pris une ferme dans la vallée, et donc je suis venu à l'école ici. Et ensuite, pour des raisons familiales, c'est ma grand-mère qui a récupéré ma garde, et elle avait fait construire une petite maison pour faire plaisir à son fils. Et donc, je suis venu ici passer mon bac de 13 ans à 18-19 ans.
Mais au fond, je pensais, Cyril, il a eu la même enfance que le marquis de Sade, parce que le marquis de Sade est bien né à Paris, et à l'âge de 4 ans, ses parents l'ont confié à son oncle, Abbé, qui était à Saumane en Vaucluse. Et donc le marquis de Sade a appris le provençal avec les servantes, et il a eu une enfance provençale auprès de son oncle jusqu'à l'âge de 11 ans.
D'ailleurs, je fais un peu comme lui lorsqu'il était en prison et qu'il il voulait toujours savoir où en était son jardin. Il demandait toujours des nouvelles de son château. Et moi, je demande toujours des nouvelles des rosiers de ma grand-mère.
Aujourd'hui, vous êtes auteur, producteur, réalisateur de documentaires. Vous avez signé un documentaire qui s'appelle « Cyril contre Goliath ». Cyril, c'est vous et Goliath ?
Goliath, c'était en fait un couturier qui s'appelle Pierre Cardin et qui a racheté un grand nombre de maisons et le château du Marquis de Sade depuis une vingtaine d'années et qui nous a quittés en décembre.
Vous aimez Benjamin Biolay ?
Pourquoi pas ?
Et qu'est-ce qu'il va nous chanter Benjamin Biolay, Cyril ?
Souviens-toi de l'été dernier.
Et c'est une programmation signée Djoubaka.
D'amour sans amour, de pas beaucoup d'eau fraîche. Le cœur toujours percé par ta flèche. Gang, 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 mes larmes un peu sèches. Ça tourne, ça tangue, mais j'ai gardé la pêche. Souviens-toi l'été dernier, tu as disparu.
C'était Benjamin Biolay qui nous chantait « Souviens-toi de l'été dernier ». Et cet été, on est ici, assis sur les cailloux, au pied des douves du château du Marquis de Sade, dans ce village de la Coste, dans le Luberon. Et on a une vue spectaculaire, Geneviève.
Ah ah, on voit les monts de Vaucluse. Puis alors, si on tourne la tête de l'autre côté, on voit le Luberon. C'est notre environnement, notre paysage. On vit avec ça.
Vous vivez avec ça, vous vivez avec Sade, qui est le seigneur du château ici, seigneur du château un jour, seigneur du château toujours. Il règne ici comme un spectre sur le village de la Coste.
Lorsque je suis arrivée il y a une cinquantaine d'années, je peux vous dire que personne ne savait exactement qui c'était et on n'avait jamais lu une ligne. Le château, c'était une curiosité. On y faisait de temps en temps quelques fêtes parce que l'ancien propriétaire nous prêtait les lieux, mais ce château, au fond, tout le monde s'en fichait. Le château, on a toujours su qu'il allait nous créer des problèmes.
Ah bon ?
C'est-à-dire qu'on savait que l'aspect attractif, non pas des vieilles pierres, mais de celui qui avait été le seigneur de la Coste, on savait que ça allait nous créer quand même des ennuis, quelque chose qui nous échappe.
C'est quand même pas rien d'avoir eu Sade comme seigneur de village. Mais j'imagine qu'il a dû en faire des frasques ici.
Oui, mais ça a mal commencé, son arrivée au château, parce qu'il n'était même pas encore seigneur de la Coste, puisque c'était son père, hein, il a hérité de son père. Hein. Lorsqu'il est arrivé à la Coste, il venait de se marier, il était marié depuis 2 ans. Tous les Lacostois attendaient qu'il arrive avec sa femme. Eh bien non, il est arrivé avec une comédienne parisienne, la Beauvoisin. Et alors les Lacostois, ben, ils avaient préparé une petite chanson et ma foi, on ne savait pas s'ils rendaient hommage à Madame de Sade, la marquise, ou alors ben, à la personne qui tenait lieu. Voilà, ça a mal commencé l'histoire.
Le marquis de Sade, il est de Provence, il a été confié quand il était petit chez son oncle, l'abbé de Sade de Breuil, pas très loin d'ici, à Somane. Comment il a été élevé ?
Ça a sans doute été une éducation libertine, parce que son oncle, l'abbé, en fait, menait une vie très dissolue. Il était voltairien, historien, érudit, et ma foi, il se livrait à quelques débauches chez lui couramment. D'ailleurs, le marquis, lorsqu'on lui faisait des remontrances, se disait « Oh, ben, l'abbé chez qui je vis a toujours un couple de gueuses chez lui, tout prêtre qu'il est. »
Prêtre anticlérical.
On peut le penser. De toute façon, les discours de Sade contre la religion sont extrêmement intéressants.
Il a été condamné pour blasphème, profanation.
Oui, ben ça c'était avec Rose Keller.
Alors, c'est quoi l'histoire de Rose Keller ? Rose Keller, c'est une mendiante ?
Ça s'est passé à Paris. Il a rencontré une mendiante dans la rue, l'a amenée dans une petite maison. Il s'est livré à des débauches, à des blasphèmes. Il la faisait cracher sur le crucifix, plus quelques sévices. Et lorsqu'elle a pu s'échapper, elle est allée à la police. Et c'est extrêmement intéressant de lire les procès-verbaux de la police. Il a été condamné 2 ans après à rester à Lacoste. Il était prisonnier dans son château de Lacoste. Voilà. Les Parisiens s'en sont débarrassés comme ça.
Assigné à résidence ici. Donc on le regarde, ce château, je le vois et je me demande, Geneviève, qu'est-ce qui s'est passé dans ce château ?
Il n'a jamais vraiment vécu dans ce château, il faisait des travaux, donc il venait surveiller ses travaux. Il a quand même passé un hiver avec sa famille, mais c'est bien dans ce château qu'il a été arrêté et qu'il est reparti en prison pour 12 ans, jusqu'à ce que la Révolution française l'en libère.
Cyril Montana, vous êtes un adepte de Sade, vous aimez Sade ?
Mais moi, quand j'étais ado, j'étais guide ici, j'étais guide, mais en fait, je n'y connaissais absolument rien et j'inventais complètement une vie à Sade, je me souviens. Et un jour, je suis tombé, je crois que je ne sais plus qui c'était, mais c'était un spécialiste de Sade qui repartit furieux. On dirait que c'était un scandale de dire des choses pareilles, voilà. Enfin, je sais que moi, Justine, quand je l'ai lu, à la fin, la scène finale, j'ai pris le livre et je l'ai jeté contre le mur parce que pour moi, c'était intenable. Ben, j'ai vraiment eu du mal, c'était très difficile. C'est trop, et en même temps, alors c'est trop à lire parce que les images sont extrêmement violentes. Il arrive à me choquer, moi, aujourd'hui. Qu'en est-il de l'époque, quoi ?
C'était une littérature qui circulait sous le manteau. Hein, il a été interdit jusqu'après la guerre de 45. Hein. Donc ce qui était, j'allais dire amusant, c'est pas tout à fait le mot, mais pour nous aujourd'hui, c'est de voir quand les Lacostois, comme la Révolution avait éclaté, qu'il y avait les châteaux qui étaient pillés un peu partout, ils se sont dit, bah, tiens, on va aller piller notre château. Et le conseil municipal prend même une délibération de faire démolir les créneaux du château du sieur marquis de Sade. Alors le marquis dit qu'il était en train d'essayer de sauver sa peau parce que c'est pas facile. Hein. Donc il avait oublié tous ses titres de noblesse. Il signait Louis Sade et il s'était embauché, si je puis dire, à la section des piques, c'est-à-dire les armées révolutionnaires. Pour sauver sa tête quand même. Alors il fait une belle lettre à la municipalité et il leur dit, écoutez, ne vous donnez pas cette peine. La prochaine fois que je descends en Provence, moi-même, j'abattrai mes créneaux avec la constitution dans une main, le marteau dans l'autre. Et en attendant, respecter la propriété privée, c'est dans la Constitution, le respect de la propriété privée. Et c'est comme ça qu'il a sauvé les créneaux de son château.
Geneviève Récubert, dans les affaires du marquis de Sade, il y a une histoire, il y a l'affaire Trillier, qui est une histoire assez fascinante. Elle s'est passée dans la région, celle-là.
Oui. Le marquis avait l'habitude de recruter quelques servantes. Et puis là, Catherine Trillier, il l'avait trouvée à Montpellier. Donc il la ramène au château, et puis alors les servantes au château, elles servaient à tout.
Esclavagisées ?
Oui, il y a des agressions sexuelles continues. Et le père Trillier, l'ayant appris, est venu à Lacoste chercher sa fille. Il n'y est pas arrivé finalement. Elle n'a pas manifesté d'intérêt pour suivre son père.
Ah, finalement, elle était bien là.
Voilà.
Et vous qui connaissez par cœur ce château, il n'y a pas des fans de Sade qui viennent ici, un peu comme en pèlerinage ?
Oui, si, il y en a eu, bien sûr. Surtout, il y a eu le XXe siècle qui a redécouvert Sade, notamment après les surréalistes. Donc on a André Breton, Gilbert Lely. Et alors on raconte l'histoire. Il arrivait à Lacoste et dans la cour, il y a un puits magnifique. Et il paraît que Gilbert Lely lançait sa carte de visite dans le puits. Puis il écoutait Et lorsqu'on lui demandait ce qu'il faisait, il disait « Ah, Chantres en relation avec le marquis de Sade. »
Et ça crée des zinzins quand même, hein.
Ah ben bien sûr, il y en a eu beaucoup. En fait, c'est un pays qui a été libre dans sa tête assez vite, non conventionnel, et qui a pu accueillir des gens différents. Dans le temps, disons il y a une cinquantaine d'années, 60 ans, c'était des gens qui étaient séduits par l'accueil à la coste. La personne qui arrivait ici était accueillie. On lui servait le pastis et on parlait. Moi paysan, lui artiste, bon, pourquoi pas. La vie à la coste et la société lacostoise dans les années 50-60 s'est construite comme ça. Et elle a été d'une richesse folle. Il en reste encore un petit peu aujourd'hui. C'était des gens ouverts, humanistes. Bon, c'était aussi des gens qui étaient athées, mais qui avaient une philosophie de vie.
Cyril Montana.
Je rejoins ce que dit Geneviève. J'avais une adolescence assez compliquée à Paris. Je commençais à mal tourner, en fait. Et c'est vrai que quand je suis arrivé ici, ma grand-mère qui s'occupait de moi était dépassée, parce que déjà âgée, et puis moi j'étais vraiment très turbulent. D'un seul coup, ce village et tous les gens différents, des paysans, des artistes, des notables, des carriers de pierre. En fait, tous ces gens ensemble ont joué un peu un rôle de parents de substitution. C'est avec eux que je me suis forgé, avec eux que j'ai commencé à comprendre qu'il faut peut-être arrêter un petit peu les conneries. Et d'ailleurs, avec Pierre Gérard, le mari de Geneviève, c'était à l'époque, j'avais tendance un petit peu à me perdre un peu, à faire beaucoup la fête en gros. Et je sais que Pierre, à chaque fois, ne me jugeait jamais. Et à chaque fois que je passais, on avait des discussions ensemble, lui et d'autres, et Martha Scherer aussi, par exemple. Ce sont des gens qui ont toujours eu un œil bienveillant. Et ça, ça compte vraiment, surtout ado. Qu'on ne pas se sentir jugé, de se sentir épaulé, puis d'avoir des gens avec qui réfléchir et des gens très différents.
Un village, c'est une famille alors ?
Ah mais oui, c'est ça, c'est exactement, c'est une famille, exactement.
Ça vous dit qu'on se lève des cailloux et qu'on descende vers le village tous les trois ?
Allez, allons-y, hein. Prenons cette petite rue pavée.
Faut pas oublier que la coste en provençal, la coste, c'est la côte.
Et là, on descend, nous. Le marquis de Sade, quand il habitait là-haut, il devait pas descendre souvent, hein, parce qu'après, il faut se taper la montée, hein.
Non, il partait en carrosse.
Ouais. Il nous faudra un carrosse à nous aussi. J'aime bien votre voix.
Ah,
oui. Vous avez une petite voix qui flûte.
Je m'en amuse des fois. Je fais partie d'un orchestre, c'est l'orchestre des pas musiciens. Et mon instrument, c'est ma voix. Et j'ai trouvé que ma voix pouvait me permettre des tas de choses.
C'est vrai, on fait des trucs pas pareils à Coste, Cyril.
Ça donne effectivement un écosystème très singulier au cœur de la Provence.
Écosystème, c'est un peu technocrate. Hein. Moi, je dirais plutôt symbiose, je suis plutôt de ce côté-là,
ça
moi.
Plutôt communauté.
Ouais, fraternité, ouais.
On va s'arrêter là, on va faire une petite pause. Qu'est-ce qui fait chaud ? Faut quand même le dire, ce château, c'est Pierre Cardin qui l'a racheté. Il est mort l'année dernière.
Oui, il l'a acheté pour 1 million de nouveaux francs, c'est-à-dire que dalle, même pas une maison. Hein. Il devait faire des travaux de consolidation de la ruine, ce qu'il a fait, voilà. Bon, mais il ne s'est pas arrêté là, malheureusement. Il a acheté une maison, et puis 2 maisons, et puis 3 maisons, et puis 4 maisons. Je peux continuer longtemps parce qu'il a plus d'une quarantaine de propriétés sur la coste. Et quand une petite mémé de la rue Basse lui a dit « Mais monsieur Cardin, pourquoi vous achetez toutes ces maisons ?» Il a répondu, « Mais madame, il faut bien faire tourner le capital. » Voilà. Donc c'est le capital qui nous a eu à la coste, on va dire.
Vous partez ?
Ouais.
Comment on dit bye-bye en provençal ?
Bye-bye, vire le cute et le métraille.
Bye-bye alors, juste bye-bye, Geneviève.
Oui.
Cyril Montana. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude, nous, de déambuler dans les marchés. Hein. Mais il n'y en a pas aujourd'hui à la coste. On va se balader, on va aller grappiller comme ça, aller voir des gens un peu partout. Mais avant, vous m'avez fait rencontrer un tailleur de pierre, Cyril.
Oui.
Il s'appelle Bruno Morandini.
Voilà, quelqu'un d'assez incroyable qui vit sur le plateau du château dans une carrière ultra sensible et qui, de son habitat, a fait une œuvre d'art et est en train d'en faire une œuvre d'art.
Et c'était hier soir, on est arrivé dans la nuit, à la Belle Étoile. On est arrivé dans sa forêt de chênes et on est descendu dans sa maison. Il a creusé dans la montagne, une maison dans les carrières et il en a fait son petit château à lui.
France Inter. Rendez-vous place du marché.
Bruno, on arrive devant votre carrière. C'est ici que vous habitez ?
Oui. Tout ce qui est bâti, c'est moi qui l'ai bâti.
On a comme une porte avec une voûte.
Voilà, c'est le passage du roman au gothique.
C'est votre maison, mais c'est votre atelier de tailleur de pierre aussi.
Oui, oui, ben je mélange un peu tout.
Vous l'avez trouvé comment, cette carrière ?
Une amie et cliente qui m'a parlé d'une artiste qui souhaitait faire une exposition de ses œuvres sur place, qui n'avait pas vraiment de moyens et qui cherchait donc quelqu'un qui pouvait être intéressé par une partie du lieu pour faire une sorte d'échange entre ce service et jouir du reste du lieu, on va dire.
Cette dame, elle vous a dit, tu peux construire ta maison là-dedans ?
Ben, ça m'a fait rêver, ça m'a même allé au-delà de mes rêves de... Mes rêves d'enfant avec un peu les chevaliers de la table ronde, cette ambiance médiévale.
Une fois que vous avez vu cette cavité, vous avez imaginé votre château dedans.
Oui.
On continue ?
Oui.
Ça me fait un peu peur. Là, on est tous les deux dans le noir au fond de la carrière. Et je suis claustrophobe.
Bah là, tu vois, c'est tout ouvert. Là, c'est la forêt.
Vous êtes bien là ?
Ah oui. Je sais que j'aurai toujours quelque chose ici à bâtir. Je pense avoir souffert adolescent de l'ennui. Ben, je suis rassuré parce que je me sens plus confronté à ce genre de crainte. Ce qui m'a attiré dans ce métier, c'est le travail dans le volume, créé en...
En relief. Là, on est dans une troisième dimension. Il y a un homme dessiné sur le mur, un homme en haute forme avec une canne.
Ça, c'est des graffitis de la fin du 19e siècle. Si vous y arriviez à lire, c'est du provençal. Louvaki parti pour vendre sa confiture.
Il est parti pour vendre sa confiture.
Et comme est un bon mari, a pas oublié de sa veste.
Comme c'est un bon mari, il a pas oublié de mettre sa veste.
Donc il est parti pour vendre sa confiture au sens figuré.
Et il est parti pour vendre son programme politique et faire son blabla.
Et s'il faut retourner sa veste, il a pas oublié de l'emporter.
C'est vous qui avez fait les encadrements de fenêtres dans le style médiéval aussi ?
Oh, ça commence à être un peu la Renaissance. C'est des meneaux très rustiques, mais...
C'est incroyable. Et là-haut, une tête sculptée ?
Oui, c'est une sorte de guerrier du futur, quoi. De manga japonais.
En fait, vous avez mélangé tous les styles.
Ah oui, oui. Ah ouais, ça fait quand même 21 ans que je suis là. Quand j'ai fait quelque chose, ça reste fait. Et ça risque de rester bien longtemps après que je sois plus là.
Vous avez appris tout seul ?
J'ai appris chez un artisan tailleur de pierre. Alors au début, c'était pas très réussi, non.
Il y a un petit désir de science-fiction chez vous. C'est futuriste, tout en faisant une architecture médiévalo-gothique, romane.
C'est mon côté à la fois conservateur et progressiste.
Et quand vous étiez petit, vous viviez dans une maison comment ?
C'est ce qu'il y a de plus banal. Je ne suis pas paysan, je ne suis pas montagnard, je suis un très mauvais citadin. Je suis malheureux en ville.
Et là, vous êtes heureux ?
Pour m'être posé la question en me demandant qu'est-ce que serait pour moi la vie idéale, j'ai réalisé que j'étais en train de décrire ma vie, quoi.
Their minds, so I'm not gonna change.
Qu'est-ce qu'on vient d'écouter, Cyril Montana? Lana Del Rey?
Dark, but just a game.
Et vous êtes bien sur France Inter. Ici, on a tous rendez-vous Place du Marché. Dans le village de Lacoste, il n'y a pas de marché, mais il y a des gens. Il y a des filles de Lacoste que vous voulez me présenter, que vous aimez bien. Ça va, les filles?
Bonjour, bonjour.
Vous êtes assise sur votre bloc de pierre.
C'est confortable, mais c'est chaud. Hein.
Ouais. On est en face de votre sculpture, Martin. Un oiseau qui regarde vers les monts du Vaucluse, tout transparent, tout en acier, qui a l'air quand même très tranquille.
C'est ça, je pense qu'il est assez content où il est. Il a de la chance d'avoir cette vue devant lui.
Vous avez appris la sculpture avec votre père?
Avec mon papa, oui.
Qui était sculpteur?
Était sculpteur, peintre d'abord.
Vous étiez au Canada et vers l'âge de 40 ans, il vous a pas mis dehors, mais il vous a dit « Hé, il y a autre chose que papa ».
Ah, non, il fallait bouger. Dans un endroit un petit peu plus habité, parce que à la cabane, c'était vraiment solitaire, au milieu des bois.
Vous habitiez dans une cabane, dans les bois, au Canada?
C'est ça, oui.
C'est comme dans la chanson?
Comme dans la chanson. Et puis, en fait, je suis partie pour avoir plus de contacts. Et en fait, ici, à Lacoste, contact. Merveilleux, merveilleux. De partout.
Christa, oui. Vous êtes avec nous aussi, copine de Martha, avec vos lunettes rondes, votre bob violet, votre t-shirt écrit Lacoste, votre rouge à lèvres rouge. Christa, vous êtes arrivée ici avant les années 2000.
Oui.
Vous avez choisi de venir à Lacoste pour faire des études d'art dans une école d'art qui était là avant.
Oui, et j'ai étudié avec Gustave Sauban, le poète et écrivain américain. Après, j'ai habité aux États-Unis, comme d'habitude, j'ai un boulot très grand.
Mais c'est quoi votre travail? C'est quoi votre boulot aux États-Unis, Christa?
J'ai vendu des arts.
D'accord.
Oui, pour des artistes.
Vous vendez des œuvres d'art?
Un jour, je n'aime pas mon boulot. J'ai décidé, Lacoste m'appelle.
Lacoste m'appelle. Je viens, je reviens là.
Oui, il y a 12 ans. 12. Petit à petit, j'ai commencé une nouvelle vie.
Et aujourd'hui, vous écrivez des poèmes, c'est ça?
Pas de poèmes, des romans. Écrire des histoires de ma vie à Lacoste.
La canadienne et l'américaine.
Voilà.
Oui, Lacostoise.
Oui, nous sommes
Lacostoise.
Lacostoise. Excusez-moi. Voilà.
Non,
Lacostoise et Lacostoise.
Oui.
Et Lacostois.
Mais oui.
Pas parisien.
Parisois ou lacostien. Je suis un peu schizophrène, moi.
Vous êtes tous fous dans ce village. Martha, est-ce que vous avez un regard sur la politique ici aussi? La France, comment elle fonctionne, son fonctionnement?
Politique, non.
Vous vous en fichez?
Oui.
Vous non plus, ça ne vous intéresse pas?
Je ne comprends pas la politique française, comme toutes les choses françaises, bureaucratiques, mais j'ai un sens de sécurité ici. Je n'ai pas aux États-Unis.
Sécurité sociale.
Ah, ben voilà.
Génial.
Voilà une belle invention.
Génial. Oui,
voilà.
Excellent.
Excellent. Qu'on a pas chez vous?
Ah ben aussi, ça c'est une approche esthétique à la vie. Au Canada, c'est plus de matériel. Ici, ça peut être les choses qui sont importantes, qui sont abstraites.
Nous, on n'a pas ce regard sur notre propre pays.
Non.
Quand j'interviewe les gens partout dans les villages, ils ont beaucoup de reproches à faire à la France aussi.
Ça peut être les choses qui nous énervent de temps en temps, service après-vente ou le matériel. Mais à la fin, on dit, mais on adore la France. Voilà, c'est pour cela qu'on y est.
Je vais vous laisser là toutes les deux. Salut les artistes.
Ciao, ciao, bye bye.
Lacostoise. On est toujours sur France Inter avec vous, Cyril Montana.
Oui, on est là ensemble.
Toujours à Lacoste.
Sous le soleil, entouré de figuiers, d'amandiers, d'oiseaux.
On crève de chaud.
On crève de chaud, mais on est bien. On flotte.
Non, c'est vrai qu'on flotte. On sue, mais on flotte.
On est bien à Lacoste, je vous le dis. En pays vaudois.
Depuis que vous êtes petit, vous êtes bien ici.
Ouais. Non, j'ai vécu une enfance sympa. Une enfance entre la moitié à Paris, la moitié ici, avec les gens du coin. Je suis allé avec leur maîtresse d'école, Madame Parot, qui ressemblait à Olive de Popeye. C'est vraiment schizophrène, c'est vraiment deux vies totalement différentes. Un petit village perché et puis le tumulte de la ville.
Et puis vous êtes devenu adulte et puis vous avez co-réalisé avec Thomas Borneau ce documentaire qui s'appelle Cyril contre Goliath.
Voilà.
Cyril c'est vous, Goliath c'est Pierre Cardin.
Voilà.
C'est un documentaire qui raconte la mainmise de Pierre Cardin sur ce village.
Qui pose la question, est-ce que la Cosse est une métaphore du monde moderne? Est-ce que finalement, d'un seul coup, les communs, ce qui nous appartient, c'est-à-dire le fait que, qu'un village puisse vivre avec ses commerces, ses habitants, ses engueulades et tout ce qui fait qu'un village est un village, d'un seul coup est privatisé, en tout cas son cœur, son centre. Et donc du coup, il y a beaucoup, les échanges sont plus compliqués. Mais le paradoxe de ce village, c'est que bien qu'il y ait eu cette cinquantaine de maisons achetées et qui sont vides, malgré ça, il continue à avoir une vie. C'est-à-dire qu'on continue à avoir des gens qui vivent dans des carrières, des Américains qui se pointent ici, des Allemands, des Suédois, des Belges, des Français, des anciens hippies qui continuent à vivre ici aussi. Ouais. C'est très étonnant, c'est très paradoxal.
Ouais. Et il y a 20 ans, Pierre Cardin est tombé amoureux de ce village. Sa preuve d'amour, ça a été tout racheté.
Oui, c'était de racheter d'abord le château du Marquis de Sade. Alors c'est vrai, on est d'accord. En fait, le château était en ruine et comme il surplombe le village, il y a des pierres qui tombaient sur les maisons. Donc il fallait effectivement des gros moyens pour stabiliser l'édifice qui a été fait. Et ça, c'est une bonne chose. Après, il a commencé à racheter 2-3 maisons pour son petit personnel et compagnie. Et puis au bout d'un moment, il s'est retrouvé avec 47 maisons et qu'il a laissé vide. Et il a même voulu faire un golf dans la vallée, d'ailleurs, et les paysans du coin sont montés avec les fourches et les tracteurs, l'en empêchaient. Donc c'est assez marrant, il y a eu une jacquerie, si tu veux. Ouais. Il y a eu quand même une cristallisation à ce moment-là, il n'a pas du tout aimé qu'on se permette de venir lui dire que d'abord le PLU ne le permettait pas de faire ce golf et que ça prenait toute l'eau de la région, quoi. Donc comment on peut avoir un golf pour 50 Pékin. Et donc effectivement, il a commencé à racheter des maisons, à les retaper.
On est devant une de ces maisons-là. Là, tu peux voir, par exemple. C'est une énorme maison, magnifique, en pierre.
Oui, ça c'est une maison 18e ou 19e, je sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'à l'intérieur, c'était une vieille maison provençale avec ses murs épais, des vieilles cheminées, des vieux parquets d'époque. Et en fait, à l'intérieur, il a tout cassé. Donc on a trouvé dans des bennes devant des cheminées, des escaliers à jeter. Et dedans, tout est en béton. Donc en fait, là, on peut voir à travers cette fenêtre, on peut voir un escalier en béton. On a l'impression d'être dans un escalier de service de HLM.
Venez voir. Hop, je regarde à travers le carreau de la fenêtre. Et c'est vrai que je vois cet escalier en béton qui n'a rien à voir avec la pierre originelle.
Ça peut être un escalier de service de MJC, ouais, avec une rampe verte en fer. Ouais. Voilà. Et il y a souvent des couleurs criardes comme ça sur les murs à l'intérieur.
Il est tout bétonné, c'est-à-dire qu'on ne voit plus la pierre, on ne voit plus les dalles au sol.
Ah bah, il n'y a plus de dalles, il n'y a plus de pierre. Non, il n'y a plus.
Et qui habite dans cette maison?
Personne n'habite dans cette maison, mais il y a sûrement des lits et des draps et des serviettes et tout.
Il a racheté un village dans lequel il a meublé à sa guise des maisons de poupées vides.
Si on se projette un peu sur ce qui va se passer plus tard, et si les héritiers décident de vendre, la problématique c'est qui voudra acheter une maison dans le sud de la France, aussi grande que celle-là, mais qui ne présente à l'intérieur aucune des spécificités de l'architecture provençale. Qu'est-ce qui va se passer après, quoi? Qu'est-ce qu'on va en faire de ces maisons maintenant?
Qui va repeupler la Coste dans ces maisons? Dans votre documentaire, Cyril contre Goliath, on comprend bien le système Cardin. Soit il va voir les gens et il leur propose des énormes sommes d'argent pour acheter leur maison. Soit les gens vont directement chez le banquier, c'est-à-dire Cardin, dire « Moi, la mienne, prenez la mienne, elle est à vendre, prenez la mienne, elle est à vendre. » Et ils repartent avec une maison qu'ils auraient vendue 150 000 euros, ils l'ont vendue 1 million. Quelque chose comme ça.
Oui, c'est ça. Mais c'est qu'il a pu acheter jusqu'à 4-5 fois la valeur des maisons pour le simple bonheur de les posséder et rien de plus. Donc effectivement, mais le problème c'est que tellement d'argent dispensé sur un aussi petit territoire, vous imaginez bien les millions qui sont déversés sans réfléchir aux besoins du territoire, aux attentes du territoire, bah vous avez des familles qui sont déchirées, des gens qui se sont engueulés parce qu'au début il y en a un qui voulait vendre, puis le cousin il voulait pas vendre, et puis il y a le type qui reste au milieu du village qui fait de toute façon moi je vendrai jamais, puis qui finit par être entouré de baraques vendues donc qui vend, donc il se fait engueuler par ceux. Enfin c'est infernal et c'est le règne du
pognon.
Quoi.
Ça divise le village, le pognon divise tout le village.
Oui, alors qu'il aurait pu faire la même chose de manière intelligente, c'est-à-dire il a des moyens, il achète, il rénove. Il met des gens à l'intérieur, il loue, il crée une dynamique et puis là il se passe quelque chose. Et là il est à l'écoute du territoire et de ce qui se passe. C'est ça qui est aberrant. Et c'est en ça qu'il n'y a pas de réflexion et que ça n'a pas de sens, si ce n'est un caprice. Voilà, et après on se dit, bon, est-ce que finalement cette privatisation outrancière, est-ce que c'est pas effectivement une métaphore du monde moderne? Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas des gens qui se foutent royalement du bon devenir des autres, qui n'ont aucun sens de l'altruisme et qui sont simplement dans leur petit monde à eux, une espèce de jet set mondial comme ça, et en fait nous on est un peu au milieu de tout ça et nous on a envie de dire juste non mais il y a un truc qui est important, ce sont les communs, c'est la rencontre, c'est le fait de pouvoir se rencontrer et c'est une atteinte aussi de manière symbolique, à la démocratie
vie.
Aussi.
Oui, à la démocratie qui est la vie d'un village, c'est-à-dire ses commerces, ses petites épiceries, son marché, ses cafés, ses maisons.
Oui, parce qu'il se passe quoi à ce moment-là? Qu'est-ce que tu fais? Tu c'est pas comme ça que se construit une démocratie. La démocratie, c'est aussi la confrontation des uns et des autres, c'est les discussions entre les gens qu'on croise, on se revoit, on fait attention. Et là, c'est beaucoup plus compliqué, pour que ça se fasse.
Il paraît qu'il y a une dame, Pierre Cardin est allé la voir, il lui a donné un chèque en disant « Mettez la somme que vous voulez, je la veux », et elle a dit non quand même.
Ouais, elle a refusé plusieurs fois, ils sont revenus d'ailleurs peu de temps avant que Pierre Cardin ne meure, il a renvoyé un émissaire en proposant une somme absolument colossale, entre 4 et 7 millions. Okay. Moi, je ne peux pas dire qui c'est parce qu'elle veut pas, parce qu'elle est très discrète là-dessus. Ce sont des gens que j'adore. Et en fait, il y a eu conseil de famille le soir. Ils se sont dit, bon, c'est vrai qu'on pourrait être tranquille. Et ils se sont dit, non, parce qu'en fait, ils ont dit, nos vies ne sont pas à vendre, en fait. C'est-à-dire que, en fait, notre vie, elle est ici. Donc, si tu achètes cette maison, tu achètes nos vies aussi.
Ouais. Mais maintenant, un an après le documentaire, 8 mois après la mort de Pierre Cardin, ça vous fait quoi de revenir ici avec moi ?
Je constate que rien n'a changé. On attend parce que c'est son petit neveu qui a repris l'héritage et on ne sait pas ce qui va se passer. En fait, voilà. À qui ça va être vendu ? Comment ? Quoi ? Pourquoi ? Et encore une fois, on n'a pas prise. C'était un peu comme au temps des seigneurs, quoi. C'est un peu une attitude très seigneurale.
C'est ça.
Donc, on attend. Nous sommes les sujets, voilà.
Les vassaux. D'ailleurs, on va écouter une archive que vous avez mise dans votre documentaire Cyril Montana, Cyril contre Goliath, où on entend Pierre Cardin parler des villageois de la Coste. C'est une archive qui date de quand ?
20 juin 2008, c'était dans 7 à 8. Et cette archive derrière a déclenché les hostilités dans le village, parce que la manière dont il a parlé des villageois, ils n'ont pas supporté, quoi.
Bon, c'est des petites gens, j'en ai connu, il y a d'autres brillants, intelligents, mais ils n'ont pas cette envergure internationale que je possède, ils n'ont pas le même niveau. Ils sont bien, très bien, ils sont tous intelligents, professionnellement et tout, mais je ne sais pas, ils sont peut-être restés en noyau ici, ils ne connaissent pas ce qui existe ailleurs. En réalité, ils ne sont pas grand-chose quand on les examine bien.
De quoi on rêve aujourd'hui pour la Coste ? Est-ce qu'on rêve qu'ils se repeuplent ?
On rêve qu'il y ait des gens qui soient dans ces maisons, on rêve que les champs soient cultivés par des gens qui puissent vivre ici, on rêve que les boutiques soient vivantes, on rêve qu'il y ait des familles, on rêve que tout ça...
On rêve qu'il y ait des balles, de village, on rêve qu'il y ait un marché un peu plus conséquent.
Voilà. Mais voilà, exactement, qu'il y ait un marché...
Qu'il y ait des cafés...
Voilà, et que le centre du village ne soit pas comme ça, complètement gelé par une espèce d'attitude mortifère où on déverse des millions pour pouvoir s'accaparer comme ça des maisons dans aucun but, quoi.
Et là, on a monté, on a grimpé, on a descendu, on est allé partout dans ce village de la Coste. Et on arrive au café de chez votre copain Minet.
Minet, c'est ça. Et il y a Minet, donc on va aller voir Minet qui doit être derrière son comptoir, comme d'hab. C'est un pilier. Au Minet.
Comment ?
Je veux pas qu'on meure de soif.
Ah, mais je vous sers tout de suite. Tout de suite, je vous sers.
Bonjour Minet.
Enchanté. Tout va bien ?
On est chez vous ici. On dit le bar à Minet.
C'est le café.
Ou chez Minet.
Ou chez Minet, voilà, ça fait. Et réellement, c'est le café de Sade, non ? Mais bon.
Ah, c'est vrai, j'ai oublié que c'était le café de Sade. Tout est Sade ici.
Tout est Sade, mais tout est joyeux en même temps.
Avec Cyril, tous les deux, on a fait le tour, on a regardé à travers les carreaux des fenêtres les maisons vides, hein. Les maisons rachetées par Pierre Cardin, et moi, ça m'a un peu angoissé, hein, quand même.
Ouais, mais c'est ici, il y a l'école américaine qui a acheté beaucoup de maisons, et ensuite, Pierre Cardin qui est arrivé, qui a acheté une autre partie des maisons. Après...
J'ai l'impression qu'il y a plus de gens de la Coste qui vivent à la Coste.
Ouais, mais le problème de l'école américaine, c'est que l'école américaine, ils ont acheté, je sais pas, une cinquantaine de maisons, mais en ce moment, il n'y a pas d'élèves à cause du Covid. La deuxième partie, c'est Pierre Cardin qui a acheté une quarantaine de maisons, et qui, lui, loue les loups à un chambre d'hôte, comme tout le monde, comme 90% des gens du village qui louent un chambre d'hôte. Hein. Et qui, bien entendu, comme il a beaucoup plus de chambres d'hôtes que les autres, quand il les loue pas, ça fait plus effet de masse.
Il loue jamais, lui. Ça, on peut pas dire ça. Ah non, jamais, jamais, jamais de la vie. Mais ça n'a jamais été loué, mais jamais.
Vous trouvez ça bien que Cardin ait racheté une partie du village ? Vous pensez que ça va être bénéfique pour la Coste ou pas ?
Par la suite, ça va être bénéfique, puisque de toute façon, même si c'est pas loué maintenant, aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent de cette histoire de maisons vides. Aujourd'hui, ces maisons vont se vendre, quoi qu'il arrive. Mais les mêmes gens qui se trouvent dans un endroit calme vont se trouver dans un endroit maintenant qui va bouger. Ça va changer la situation. Il va y avoir des voitures au milieu. Ça va bousculer les choses. Ça veut dire que l'école américaine va racheter aussi des maisons, puisqu'ils ont le projet de mettre 250 élèves dans le village. Ça va faire 150 élèves de plus qui ont entre 18 et 30 ans. Ce n'est pas des gens qui se couchent à 8 heures du soir.
J'ai une autre question. Les gens qui ont vendu les maisons à Pierre Cardin, ils sont où maintenant ? Les 50 propriétaires ?
Non, mais il y en a qui sont restés dans le coin, qui ont fait construire des maisons et qui ont fait ils font aussi des chambres d'hôtes.
Ils se sont super enrichis.
Et bien sûr, parce qu'ils ont vendu tous 10 fois le prix.
Vous auriez vendu, vous, s'il était venu, par exemple, s'il était vivant et qu'il venait là, dans votre bar, ouais. Vous dire Minet.
Moi, je peux pas, je te fais.
Quoi ?
Moi, j'étais déjà chez lui.
Vous louez là à Pierre Cardin ?
Voilà. On loue à une des sociétés.
Vous louez cher ou pas ?
Pourquoi deux ? Non, pas du tout.
Ah. Moi, je peux comprendre aussi, Cyril, qu'il y ait des gens qui se disent « Attends, je vais vendre 4 fois plus cher ma maison. On y va, quoi. Tant pis, on la vend. » Il y a plein de gens qui peuvent comprendre ça.
Mais j'ai jamais critiqué ça. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est ce que la personne en fait une fois que tu as acheté, qu'est-ce que t'en fais ? C'est ça qui est critiquable, c'est pas le fait de vendre 4 fois le prix. Évidemment, les gens ont besoin d'argent, il y a des familles, c'est pas critiquable. On va pas jeter l'opprobre sur les gens qui ont vendu.
La Coste, quand il n'y avait pas l'école américaine et qu'il n'y a pas eu Cardin, ça tenait debout parce que c'était la mode, quoi. C'est tout, quoi. Il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait rien à la Coste, rien.
Vous, j'ai l'impression, Minet, que vous suivez cette évolution.
Mais oui,
le monde change et ça ne vous dérange pas, et ça, c'est plutôt pas mal, en fait.
Mais non, mais parce que si on n'avance pas, comment on fait? On ne va pas aller regarder les lézards se promener sur le bord de la route, quoi. On n'a pas le temps, quoi.
Ce n'est pas une question d'avancer ou de ne pas avancer, c'est dans quelle direction on va. Et quand on me dit que le résultat de ce village, c'est 120 maisons qui appartiennent à des intérêts privés, je dis non, ça ne va pas dans le bon sens pour moi. Voilà, point, c'est tout. C'est une question personnelle. Et je pense que non, on ne peut pas s'acheter un village aujourd'hui. Et il faudrait qu'on ne puisse pas le faire. Voilà, donc. Mais bon.
Bon, chez Minet, en tout cas, ça bat son plein.
Oui, chez Minet, c'est tout le temps dans la parole. Il est toujours là avec son sourire derrière le bar, de toute façon. De toute façon, c'est une règle absolue. C'est un pilier. C'est tout.
Vous aimez la musique, Minet?
Oui. J'aime bien le jazz, j'aime bien la soul, j'aime bien le blues.
Je crois que j'ai un disque de soul pour vous. Je vais vous faire découvrir Aloe Black. Vous connaissez Aloe Black?
Allez, non, je ne connais pas. Après, de non, je vais l'entendre sûrement. I need a dollar.
I need a dollar. Aloe Black sur France Inter.
I need a dollar, dollar.
C'était Aloe Black.
I need a dollar.
On est arrivé dans une prairie avec des oliviers, des vignes, la vue sur ces montagnes du Vaucluse.
Quelques moutons au bout là-bas, il y a quelques petits moutons.
Les cyprès.
Les cyprès aussi, et voilà. On est bien, on est vraiment dans la vallée là.
Où est-ce qu'on est ici, Cyril?
On est chez la famille Ronqui qui font un délicieux vin bio. Et c'est Yves qui est ici avec son fils et sa femme et leur belle-fille qui s'occupe de ce vignoble. On va goûter le vin de Yves et puis on va goûter du tofu. Parce qu'ici, il y a aussi des gens dans la région qui font du tofu.
C'est ça. Et puis des curiosités.
Artistiques, culinaires, créatives et individuelles. C'est dingue, non?
Ouais, c'est bien. Ça rassemble, hein, l'apéro, de toute façon. On est tous d'accord. Au bout d'un moment, on parle de tout ça, la vie du village. Il y a quand même un point où on se retrouve tous à la fin de la partition, c'est l'apéro.
C'est ça, et là on y est, et on est aussi là pour ça. Et on a aussi, bien sûr, un poète avec nous, un poète provençal, Guy Mathieu.
Guy Mathieu, c'est vous?
Eh bien c'est moi, oui. Voilà, ben, je suis d'ici, puis j'écris beaucoup dans ma langue, qui est la langue millénaire des troubadours, voilà, et qui est toujours vivante, et qui, j'espère, le sera encore longtemps, malgré le mauvais sort quand même qu'on lui réserve en haut lieu, voilà.
Ah, sur les langues régionales.
Voilà, bon, je ne m'attarderai pas plus parce que...
Ça vous agace?
Oui, plus que cela, ça me contrarie fondamentalement le mot.
Parce que pour vous, le provençal, ce n'est pas une sous-langue?
Ah, pas absolument pas, c'est la langue quand même de prix Nobel de littérature, c'est Frédéric Mistral quand même.
Frédéric Mistral.
Voilà.
En plus, ce que j'aime chez Guy Mathieu, c'est que non seulement il a le verbe haut, et il est beau.
Il est très beau gosse, Guy Mathieu.
Très beau gosse. Chapeau d'aventurier, chemise bleu ciel, moustache...
Moustache de viking.
Je vais venir vous revoir tout à l'heure, je fais le tour de la table, de l'apéro.
Autour de cette table, il y a plein d'autres personnes très intéressantes. On a Océane, qui est donc la belle-fille de la famille Ronqui, c'est viticulteur bio. Elle aussi, elle écrit justement, et ce serait bien qu'elle nous parle un peu de ce recueil de textes magnifiques qu'elle a publié et qu'ils vendent d'ailleurs ici. Lorsque vous venez acheter votre vin, vous pouvez repartir aussi avec un petit peu de littérature.
Le vin, le livre, l'ivresse.
Exactement.
Salut Océane, bonjour.
Bonjour.
On est un peu chez vous là. Quand même, on est chez votre compagnon qui est à la vigne. On est un peu chez vos beaux-parents. Merci de nous recevoir et d'avoir installé tout ce vin rosé blanc.
Celui-ci, c'est quoi ?
Je le fais avec j'ai une parcelle de chardonnay que j'assemble avec du vermentino. Maintenant, c'est un cépage qui est dans les appellations des Côtes de Provence et des Côtes du Rhône. L'assemblage des deux en cuve donne un petit vin assez fruité, là, très agréable, quoi.
Cyril, quand on a préparé cette émission, Cyril Montana, vous m'avez dit « Océane Murcia, elle écrit des beaux textes sur le vin, c'est Dionysos au féminin. » Ça vous dit de nous en lire un passage ?
Lacoste. Je suis le dieu du vin en visite au marquis. Ces terres, ce sont les miennes, inondées de soleil. Ce château, c'est le sien. Il se dresse en lambeaux en haut de la colline, comme le symbole défait d'une noblesse à terre. Les pierres qui lui manquent sont celles des maisons qu'il regarde d'en bas. Le refuge fortifié laisse entrer la lumière et rappelle que parfois, quand les siècles se tordent, les hommes brisent les rois. De ces temps de révolte, il ne reste pas grand-chose. D'autres titres ont fleuri et d'autres privilèges. Le village s'est figé à l'ombre du château et celle du marquis n'est qu'une pâle réplique, une tartufferie sans passion ni folie. Marquis, sache que Dionysos n'aime pas les cartes postales ni les maisons fermées. Que sont ces lions de pierre qui bâillent dans la plaine ? Qu'est-ce que cette gare sans train et ces domaines sans vie ? Je suis le dieu du vin qui part à l'accostage pour rendre à ce pays son cœur et ses orages. Bois donc, à pleine bouche, le sang de nos raisins. Donne raison à nos vignes qui ne craignent pas le temps et ne courbent l'échine que lorsqu'il y a du vent. Du ventre de l'aride et sauvage Provence peuvent naître quand même de ferventes promesses. Ici ne se vend pas la vie au plus offrant, car lorsque la nuit tombe et que s'efface l'ombre, face aux ruines du monde, seul reste le courage.
J'ai des frissons.
Vous exprimez dans ce poème beaucoup de choses quoi, qui se sont dites dans cette émission aussi.
Ce qui m'a inspirée pour écrire certains de ces textes, c'est le vin certainement, le rapport à l'ivresse, à la littérature et à tout ce qu'il peut y avoir de poétique et de l'histoire dans le rapport de l'homme avec le vin. Mais c'est aussi de voir Mathieu travailler tous les jours et c'est le rapport à la nature, à la terre, à l'implication que ça demande et autant que ça prend et à l'énergie et à tout ça. Et il y en a peu qui le font encore de cette façon-là. Et
ce rapport noble à l'agriculture, j'ai l'impression que les Français y sont attachés quand même. Il y a un bon retour de la jeunesse sur l'agriculture.
Ouais, c'est sûr. Après, il faut que tout le monde puisse avoir accès à ces produits qui sont faits et qui sont pas forcément accessibles pour tous. C'est cher parce que c'est du travail et parce que c'est une autre façon d'appréhender la production. Et du coup, la question, elle est pas seulement de comment on produit, mais aussi comment les gens peuvent avoir accès à tout ça. Et ça dépasse, je pense, le cadre de Lacoste et de Font-Léal.
Guy Mathieu, continuez à parler provençal, continuez à écrire de la poésie en provençal. Est-ce que c'est une manière de résister et une manière de résister à quoi ?
Mais c'est tout simplement une raison d'être, voilà, de résister tout simplement. En 1949, ben, 80% de la population parlait quotidiennement cette langue. Moi, cette langue, c'est mes tripes, c'est tout cela. Et je ne vois pas pourquoi nous serions privés, nous, de notre langue maternelle. Hein. Alors que, dans les pays voisins, on peut parler deux, trois langues officielles. Ce qu'on oublie, c'est que la langue d'oc est sur trois états d'Europe actuellement. L'Espagne, avec la Val d'Aran, 33 départements du sud de la Loire, dans l'État français, et quand même 12 vallées des Alpes italiennes. Il m'est arrivé de passer des semaines en Italie, dans ces vallées, sans dire un mot de français, ni un mot d'italien.
Provençal.
Bien sûr.
On se fait un petit coup de provençal.
Ah ben pourquoi pas.
Un poème que vous avez écrit, vous ?
Voilà, peut-être, puisque nous sommes au milieu des lavandes. Voilà. Menanilai, au berbitant des lavandes, coube Saint-Vent, les hommes de la montagne, l'esquine plégade sous la jupe disant, Pierre, Louvain, vendra de les clapiers de Ventour, posa coquille perfume, sumi vieille cisour. Voilà la traduction en français. Je m'en irai en plein milieu des lavandes, comme s'en vont les hommes de la montagne, l'échine ployée sous la bosse des Indiens. Puis le vent viendra dans les pierres du Ventoux, poser quelques parfums sur mes vieilles sueurs.
C'est beau aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'elles évoquent, ces lavandes?
Tout simplement, mon quotidien, quoi. Bon, mon quotidien civil surtout, quoi, oui, voilà.
Et à table avec nous, il y a vous. Raoul Montero, vous êtes Tofu Yasan?
C'est bien ça.
Maître Tofu?
En japonais.
Et vous fabriquez votre tofu, ici artisanal. On veut trop goûter. Vous avez goûté, Cyril Montana?
Je suis en train de goûter un tofu avec un mélange de champignons. Je goûte quelque chose d'absolument délicieux qui fond dans la bouche, rehaussé par le goût du champignon. C'est vraiment un délice. Ah ouais. C'est savoureux, c'est somptueux, c'est moelleux. C'est délicieux.
On fait du tofu à la Coste?
Depuis pas très longtemps, depuis l'année dernière.
Depuis vous?
Depuis moi, oui, absolument.
C'est ça? C'est une reconversion. Vous n'avez pas toujours fait de la cuisine? Vous n'avez pas toujours habité dans ce coin-là?
Donc d'abord, je suis vénézuélien, je suis parti vivre à Paris quelques années. Et puis, à un moment donné, on a décidé de partir au Japon. Et c'est là où j'ai rencontré mon amour, le tofu.
Vous êtes tombé tofu d'amour pour le tofu?
Absolument.
Un peu comme Cyril, j'étais pas très branché tofu. Là, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de boulotter.
Mais oui, mais c'est ça le problème avec les tofu ici en France. Il est fait de manière industrielle, donc du coup, on découvre pas la subtilité de la chose. Là, le mien, il est justement, j'essaie de le faire un peu à la japonaise, tendre, très doux, c'est un peu comme si on mangeait un nuage.
Un bol d'émail avec des fleurs, des baies rouges, de la salade, du tofu en carré blanc, c'est une petite œuvre d'art.
Et ça se mange tout cru comme ça, tout simplement, et avec juste un petit filet de sauce soja et de sésame.
Vous avez goûté, Océane? Est-ce que ça se marie bien avec votre vin?
Bah, franchement, moi, c'est pareil, je suis pas une grande amatrice de tofu d'habitude, et là, c'est vrai que cuisiner par Raoul, c'est assez exceptionnel.
Attends, mais vous allez nous convertir au tofu, moi qui trouvais ça toujours un peu tristoun.
Mais oui, mais il faut le faire bien, avec un peu de patience. Je me suis réveillé à 6h du matin ce matin pour vous faire ce petit plat.
Ça, c'est sympa.
Et puis surtout, ce qu'il faut dire de ce tofu-là, c'est que c'est du local. Donc le soja vient de Manosque. Le sel avec lequel je travaille, c'est bien sûr le sel des Camargues. Après, je fais plein de tests, plein de saveurs différents. Là, je m'écarte un peu de la tradition japonaise, mais je m'inspire du terroir. Donc, il y a du romarin, parfois, des olives bientôt, de la truffe, du safran, donc voilà.
Tofu français, tofu provençal.
Et on réivindique que ça soit local, que ça soit uniquement vendu localement.
Alors, c'est rigolo, cette idée de produit qui se fait à l'étranger, notamment d'une spécialité japonaise comme le tofu, et de le revendiquer comme local en Provence.
Mais oui, mais il faut être de son temps. Et puis, le tofu, en fait, ça nous aide énormément à réduire un peu la consommation d'eau et la consommation des viandes.
Raoul, est-ce que ce tofu, il se fait comme du fromage un peu? C'est-à-dire qu'il y a des tofus qui sont plus ou moins faits, oui, et plus ou moins frais?
Oui, en fait, ça dépend donc de la technique. Le tofu qu'on appelle momen, donc ça veut dire coton, c'est pour ça que c'est un petit peu
moelleux,
tendre. Donc c'est celui que vous êtes en train de manger avec des shiitake et des champignons de Paris.
Ça, alors ça, là, cette espèce de tofu burrata?
Ça, c'est du yuba. Ça, c'est la crème de tofu. Et c'est vraiment une délicatesse, même au Japon, en fait. C'est exclusive pour la maison, parce qu'en fait... Ça s'est fait en toute petite quantité, donc je fais pour la maison. Mon copain, il est super heureux d'avoir du yuba à la maison tout le temps.
Ça se gobe?
Comme une huître.
On dirait de la burrata à l'œil.
C'est hyper bon.
Ça se mange surtout cru.
Et... Je mets du sésame aussi, c'est pas péché ça. C'est
ah
bien.
Non, c'est au contraire, c'est très bien. Et même un petit peu de gingembre aussi.
Et c'est bon pour la santé.
Et c'est bon pour la santé, c'est bon pour la planète.
On lève le verre et à quoi on trinque à la Coste alors? Qu'est-ce qu'on souhaite pour la Coste?
Tout.
La révolution.
le repeuplement. Faut venir ici, faut racheter ses maisons, faut refaire vivre.
Non, elle n'a pas dit ça.
Bon, je sais pas. En tout cas, que la Coste vive.
Voilà.
À la Coste?
À la Coste.
Merci.
Salut.
La Costoir. La Costoise. Adessia et Gramassi. À qui?
Cette émission a été réalisée par Charles de Cilia.
C'est Marie-Philippe qui a préparé cette émission.
Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter.
Et demain, vous retrouvez Antoine Lee à Aulnay-sous-Bois.